Voilà, donc sinon permettez-moi de présenter donc Monsieur Jean-Pierre Changeux, qui est donc professeur au Collège de France, professeur à l'Institut Pasteur, spécialiste du cerveau. Il a été pendant 6 ans, de 92 à 98, président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie. Il est membre de l'Institut et vous pouvez lire ses propos dans ses différents ouvrages. L'homme neuronal en 1983, qui a été publié chez Fayard. Matière à penser en 89. Les fondements naturels de l'éthique en 93. Raison de plaisir en 94. Et le dernier, La nature et la règle, qui est paru en 98. Voilà, donc je vous laisse écouter sa conférence sur le cerveau, qui s'intitule donc Le cerveau, de la biologie moléculaire aux sciences cognitives.
Merci beaucoup. D'abord, je dois dire que merci beaucoup. Je veux dire que je suis extrêmement heureux d'être avec vous dans ce lieu historique, qui est le Conservatoire des Arts et Métiers, puisqu'il correspond au vœu de l'abbé Grégoire de créer, en quelque sorte, une implémentation de l'encyclopédie, de faire en sorte que cet ouvrage puisse être diffusé à un large public. Je pense que c'est une initiative tout à fait remarquable de Monsieur Jean-Jacques Ayagon et de Monsieur Henri Michaud d'avoir réussi à créer un tel programme qui couvre effectivement tous les savoirs au long de cette année. François Jacob, dans sa première conférence, vous a montré que les êtres vivants peuvent se décrire comme des états privilégiés d'organisation de la matière et qu'on peut rendre compte de leurs propriétés sans faire appel à d'autres forces que celles de la physique et de la chimie. Il a souligné que les progrès de cette biologie moléculaire, cette compréhension des êtres vivants au niveau des molécules et, je dirais même, des atomes, ces progrès de la biologie moléculaire ont signé en quelque sorte la mort du vitalisme, l'appel à des forces vitales immatérielles. La question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de notre cerveau et de ses fonctions? Qu'en est-il en quelque sorte de l'esprit humain? Mon propos aujourd'hui ne va pas être de répondre d'une manière définitive à cette question, qui, vous savez, est une question difficile, mais elle va être de tenter avec vous d'étendre ce raisonnement amorcé par François Jacob à cet état d'organisation, je souligne les mots organisation, de la matière beaucoup plus complexe que celui que François Jacob a évoqué, qui est celui des bactéries, des cellules, des embryons, le cerveau de l'homme. Je n'essaierai pas, encore une fois, de vous apporter une réponse définitive à cette question. J'essaierai seulement d'illustrer cette notion que notre cerveau, qui est donc l'organe de notre connaissance, est une machine chimique, un système matériel ouvert sur le monde, mais que celui-ci est d'une complexité, d'une adaptabilité, d'une créativité telle qu'il est nécessaire de progresser dans cette connaissance à l'aide de multiples disciplines qui vont depuis cette biologie moléculaire jusqu'à la psychologie et dans cette démarche que j'entreprendrai avec vous, qui sera fondée sur quelques exemples, la conclusion sera que là aussi, du moins dans l'état actuel de nos connaissances, il ne sera pas nécessaire de faire appel à des forces nouvelles, immatérielles en quelque sorte, pour rendre compte de l'origine des productions les plus nobles de notre espèce. Alors je dirais dès le départ, que nous ignorons beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas vous faire un exposé qui, encore une fois, explique tout. Je dirais ignoramus, nous ignorons. Mais je ne dirais pas ignorabimus, nous ignorerons. Je pense qu'au contraire, nous sommes là pour essayer de progresser dans cette connaissance. Et je dirais que le moment est venu de mettre à l'épreuve un siècle après, cette proposition de Freud que vous ignorez peut-être, je cite, on doit se rappeler que toutes nos connaissances psychologiques sont provisoires et doivent un jour être établies sur le sol des substrats organiques. Qu'est-ce que c'est que ces substrats organiques? Des substances, des processus chimiques. Donc, à partir de ces processus chimiques que j'ai l'intention de vous présenter, nous suivrons une démarche qui ne sera pas celle de la réduction. On accuse souvent les neurobiologistes d'être des réductionnistes, mais celle de la reconstruction. Et après donc avoir présenté ces molécules qui composent notre cerveau et qui interviennent dans la signalisation entre les cellules qui composent ce cerveau, j'essaierai de montrer comment on peut progressivement les réassembler, les recomposer pour obtenir, au moins d'une manière très schématique et encore provisoire, un système qui possède des propriétés caractéristiques du cerveau de l'homme. Le cliché que vous avez ici, non, ça c'est pas moi ça, est un cerveau humain, et je l'avais montré pour souligner l'extrême complexité de ce cerveau. Ce cerveau possède des propriétés caractéristiques de circonvolution, une substance grise, une substance blanche. Il se compose en fait d'un nombre extraordinairement élevé de cellules nerveuses. Je reviendrai sur cette définition. Nous en avons à peu près 100 milliards dans notre cerveau. Et les connexions qui s'établissent entre ces cellules nerveuses sont elles aussi d'une extraordinaire richesse. Il y a environ 1 million de milliards de connexions entre ces diverses cellules. Et on oublie souvent, quand on dit que le cerveau est une machine chimique, que ce cerveau possède une complexité que nous ne voyons pas d'ailleurs sur ce cliché, mais qui va être révélée par l'utilisation de la microscopie optique qui fut utilisée au début de ce siècle par Santiago Ramón y Cajal. Ce cerveau, dans cette extrême complexité, se trouve aussi caractéristique de notre espèce. Personne ne va douter que le cerveau de l'homme est différent du cerveau du singe. Mais vous voyez aussi sur ce cliché qu'il s'en rapproche. Certaines surfaces se retrouvent ici, qui interviennent dans la commande motrice, ici dans la perception visuelle, chez l'homme comme chez le singe. Mais vous voyez aussi qu'il existe certains domaines qui explosent en quelque sorte au cours de cette évolution qui vous a été présentée par François Jacob, en particulier cette partie antérieure de notre cerveau que l'on appelle le cortex frontal et sur lequel je reviendrai à la fin de cet exposé. Vous voyez que celui-ci est beaucoup plus développé qu'il ne l'est, toute proportion gardée, par rapport au cerveau du singe. Mais on peut dire que notre cerveau est donc le produit de l'évolution biologique, l'évolution génétique qui fait l'homme différent du singe, mais aussi de l'évolution de l'individu, puisque au cours du développement, bien entendu, ces cellules nerveuses vont se multiplier et s'interconnecter les unes avec les autres, et aussi de l'évolution de l'environnement culturel au milieu duquel le jeune enfant va se développer, qui va laisser son empreinte dans ce cerveau en développement, et aussi l'évolution de nos états mentaux, lorsque par exemple vous m'écoutez et vous me contestez ou vous m'approuvez dans votre fort intérieur. Donc toutes ces évolutions forment une sorte de synthèse complexe à l'intérieur de notre crâne, et cette complexité d'organisation et de fonction, nous allons progressivement la voir apparaître. Et comme je le disais il y a quelques minutes, à l'aide de la microscopie optique, l'anatomiste espagnol Santiago Ramón y Cajal, à la fin du XIXe siècle, en utilisant des sections de cerveau, a pu montrer que celui-ci était composé de cellules. Vous voyez ici une cellule pyramidale du cortex cérébral, et que ces cellules formaient des prolongements, ici des dendrites, là un axone, et que cet ensemble de cellules nerveuses formait en quelque sorte un réseau dont vous pouvez ici soupçonner l'extraordinaire complexité. Mais une de ses contributions les plus importantes a été d'essayer de comprendre comment ces cellules nerveuses se connectent les unes aux autres. À l'époque, il y avait deux grandes théories, une théorie dite réticulariste et une théorie dite neuroniste. Réticulariste, cela voulait dire que toutes ces cellules nerveuses étaient connectées les unes avec les autres par un réseau continu, qu'il y avait en quelque sorte des canalisations, des canaux, des fibres qui réunissaient ces cellules les unes aux autres d'une manière continue. La thèse opposée, qui était défendue par Harmony Karel, était que ces cellules étaient simplement juxtaposées les unes aux autres. Alors, il faut voir que ces deux théories avaient aussi un substrat idéologique, parce que si ce réseau était continu, bien entendu, l'esprit allait s'engouffrer dans le réseau et passer plus facilement d'une cellule à l'autre. Si ces cellules étaient juxtaposées les unes aux autres, il y avait discontinuité, il fallait franchir cette barrière, et cela posait un problème pour ceux qui voulaient qu'il y ait une sorte d'esprit volatile qui passe à travers tout ça. Eh bien, l'expérience a prouvé que ces cellules nerveuses sont effectivement en contiguïté les unes avec les autres et non pas en continuité les unes avec les autres. Et voici un schéma original de Santiago Ramón y Cajal qui montre une cellule nerveuse avec son corps cellulaire, comme toutes les cellules nerveuses, et cette arborisation dendritique, son axone, et vous le voyez ici, cette terminaison nerveuse qui entre en contact avec la fibre musculaire. Il y a donc une discontinuité entre la terminaison et la fibre sur laquelle se trouve juxtaposée cette terminaison nerveuse. Cette image montre que la cellule nerveuse est une unité et que ces contacts avec d'autres cellules nerveuses vont se produire au niveau de structures spécialisées qui furent appelées synapses par Sherrington et dont je vous montrerai une image dans quelques minutes. Mais auparavant, je voudrais illustrer le type de signal qui circule à l'intérieur de cette cellule nerveuse. Car on peut dire que notre cerveau est constitué par un assemblage d'une extraordinaire complexité de ces cellules nerveuses les unes avec les autres par l'intermédiaire de ces contacts qui ont lieu entre prolongements axoniques et dendritiques, mais ce n'est pas une machine inerte, il y a des signaux qui circulent à l'intérieur de cette machine. Et ces signaux, les voilà. Ce sont des impulsions électriques qui circulent à une vitesse qui est inférieure à la vitesse du son, qui se propagent le long de l'axone d'une manière tout ou rien, un blip en quelque sorte, qui va circuler sur l'axone à partir du corps cellulaire. Et cette onde électrique peut être mesurée par des équipements d'électrophysiologie et son amplitude est de l'ordre de 100 millivolts, c'est-à-dire un dixième de volt. Vous savez ce que c'est qu'un volt? Et bien là, c'est plus petit, bien entendu, que le courant électrique que nous avons dans nos appartements, mais c'est quand même très significatif. D'ailleurs, vous savez que toutes ces activités électriques ensemble produisent ce qu'on appelle un électroencéphalogramme que l'on peut enregistrer quand on a des problèmes de fonctionnement cérébral. Et ces ondes électriques discrètes peuvent elles-mêmes être expliquées presque intégralement par des transports de particules chargées à travers la membrane, ce qu'on appelle des ions. Donc on peut réduire, j'emploie le terme réductionniste, on en parlera, mais nous reconstruirons ensuite, on peut réduire cette onde électrique à des transports de particules chargées, d'ions, à travers la membrane. Donc c'est un processus strictement physico-chimique. Alors une question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir si ces ondes électriques ne sont que suscitées par l'interaction avec le monde extérieur ou bien si elles peuvent apparaître spontanément. Parce que quand je pense, quand vous pensez, quand vous réagissez à ce que je vous dis, ou quand vous vous promenez après avoir entendu cette conférence, vous avez un fonctionnement cérébral qui occupe votre pensée, en quelque sorte. Celle-ci a lieu spontanément. À quoi est-ce dû ? C'est dû au fait que notre cerveau est capable de produire une activité spontanée que vous pouvez voir ici, qui est cette onde électrique universelle que l'on rencontre depuis la méduse jusqu'au cortex cérébral de l'homme, et que cette onde physico-chimique universelle, eh bien, elle peut se produire spontanément dans une cellule ici de la moelle épinière de l'amphroie, mais ça pourrait être aussi dans notre moelle épinière. Et vous voyez même qu'elle peut être organisée sous forme d'oscillation. Donc, ce signal électrique est purement physico-chimique, se trouve produit dans notre système nerveux central et sert de signalisation entre cellules nerveuses. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir comment ce signal va être transmis d'une cellule à l'autre. J'ai dit qu'il se propageait sur les câbles dont j'ai parlé tout à l'heure, les câbles axoniques. Si la théorie du neurone est exacte, que va-t-il se passer au contact entre cellules nerveuses ? Est-ce que cette onde électrique va sauter d'une cellule nerveuse à l'autre ? J'ai dit que la théorie réticulaire n'était pas démontrable, n'était pas démontrée, mais qu'au contraire, nous avions une juxtaposition de cellules nerveuses. Eh bien, vous avez ici l'illustration du bien fondé de la théorie du neurone. Vous avez un contact observé en microscopie électronique entre une terminaison nerveuse que vous reconnaissez à ces petites vésicules et puis une autre cellule. Eh bien, vous voyez ici que cette terminaison nerveuse qui a la taille d'une bactérie à peu près, c'est un micromètre, c'est le millionième de mètre. Cette terminaison nerveuse se trouve juxtaposée, vous le voyez ici, avec la cellule suivante. Et il y a donc un espace à franchir. Vous voyez aussi que nous ne sommes pas tout à fait au niveau des molécules, je dis ça parce que nous allons aborder l'aspect moléculaire dans une minute, nous sommes encore un aspect subcellulaire, les molécules, vous commencez à les voir apparaître ici, cette petite granularité que vous voyez sur cette membrane, eh bien, ce sont déjà des molécules qui apparaissent. Question posée, comment franchir ce Rubicon, en quelque sorte, qui sépare la terminaison nerveuse de la cellule suivante. Eh bien, c'est là que la chimie va intervenir de manière quasiment obligée dans la plupart de ces synapses, puisque ici, vous avez une image d'une synapse très simple, une parmi tant d'autres, parmi ce million de milliards que nous avons dans notre encéphale. Alors, des substances chimiques, et celles-ci, elles ont été identifiées au début de ce siècle, et l'une d'entre elles s'appelle l'acétylcholine, on reviendra sur cette substance. Elle est synthétisée dans la terminaison nerveuse, elle est stockée dans cette terminaison nerveuse au niveau de vésicules que vous avez pu voir tout à l'heure sur ce cliché de microscopie électronique. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Eh bien, l'influx nerveux, cette onde que je vous ai présentée, va envahir la terminaison nerveuse et l'a entraînée par un mécanisme d'électrosécrétion, la libération de ce neurotransmetteur dans l'espace synaptique. Il va y avoir en quelque sorte un relais chimique qui va servir à la communication entre cellules nerveuses, qui va en quelque sorte servir d'intermédiaire entre un signal électrique qui se trouve ici et un autre signal électrique qui se trouve là. Il va y avoir donc libération de ce neurotransmetteur sous forme d'une sorte d'impulsion chimique, un saut de concentration qui va aller de l'ordre de 10⁻⁹ molaires, qui est une très faible concentration, à quelque chose de l'ordre de 10⁻³ molaires, un saut de concentration transitoire, bref, d'environ une milliseconde, et qui va correspondre à la diffusion de ce message chimique entre cette terminaison nerveuse et la cellule suivante. Et ça, ça se passe dans toutes nos synapses que nous avons dans notre cerveau. Quand je vous parle, il y a un crépitement de ces myriades de synapses qui fonctionnent en libérant ce neurotransmetteur qui est bien entendu parfois autre chose que l'acétylcholine, c'est un de ces neurotransmetteurs, vous y reviendrez dans une minute, mais pour continuer sur ce schéma, cette impulsion chimique qui traverse l'espace synaptique va créer une interaction entre ce messager chimique et la membrane post-synaptique. Et à ce niveau, quelque chose d'autre va se passer. Il va y avoir une conversion du signal chimique en signal électrique. Il va y avoir donc une transduction chimio-électrique. Ici, électrochimique, chimio-électrique. Donc vous voyez que nous avons un système où un relais chimique va intervenir d'une manière quasi obligatoire, c'est la majorité de nos synapses, pas toutes, d'autres sont suffisamment juxtaposées, les membranes sont suffisamment juxtaposées pour que le courant puisse passer, mais elles ne sont pas aussi fréquentes, et ces synapses chimiques composent l'essentiel des synapses de notre cerveau. Donc un mécanisme de relais relativement simple qui prend de l'ordre de la milliseconde ou plus pour l'ensemble du processus, et vous voyez tout de suite que ça crée déjà une sorte de barrière temporelle, et c'est intéressant, parce que quand je vous parle, quand vous m'entendez, nous sommes dans des échelles de temps qui sont de l'ordre de la centaine de millisecondes. Une synapse, transmission, quelques millisecondes. Vous voyez que la distance n'est pas considérable. Il y a peut-être quelques synapses à franchir pour arriver à produire la parole, par exemple, ou entendre et comprendre ce que je vous dis. Et peut-être vous n'y avez jamais pensé, mais il y a des temps critiques dans le fonctionnement de notre cerveau. À quoi sont-ils dus? Pourquoi on ne passe pas plus vite? C'était la question d'ailleurs que un de mes collègues m'a posée. Pourquoi le cerveau ne fonctionne pas avec des échelles de temps de l'ordre de la microseconde au lieu de la milliseconde, ou même plus vite encore? Parce que nos synapses, elles, ont des temps particuliers de fonctionnement qui sont de l'ordre de la milliseconde, et que la vitesse de propagation des signaux dans notre système nerveux impose des contraintes au fonctionnement de l'ensemble de notre cerveau. Alors voilà quelques images de ces neurotransmetteurs. J'ai mentionné l'acétylcholine, c'est une image de ces molécules, l'acétylcholine, mais vous avez aussi la dopamine. Rappelez-vous cette molécule, j'en parlerai à la fin de mon exposé, noradrénaline. Vous avez aussi d'autres neurotransmetteurs comme l'acide gamma-aminobutyrique ou la glycine. Alors, ces neurotransmetteurs ici, comme l'acétylcholine ou le glutamate, qui est pas représenté ici, sont des neurotransmetteurs excitateurs, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer la genèse d'un influx nerveux dans la membrane postsynaptique. D'autres, comme l'acide gamma-aminobutyrique, vont bloquer le démarrage d'un influx nerveux. Donc, ce sont des neurotransmetteurs excitateurs ou inhibiteurs. Et vous voyez ici que l'on peut avoir plusieurs neurotransmetteurs dans une même cellule nerveuse. Un même neurone peut synthétiser jusqu'à 5 ou 6 de ces neurotransmetteurs. Il dispose donc d'une palette chimique qui lui permet de communiquer avec un nombre de partenaires relativement importants, et de la sorte d'avoir une richesse d'interaction avec les neurones voisins. La question qui se trouve posée par cette découverte est: quelle est la contribution de ces substances chimiques à nos grandes fonctions? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Il suffit d'essayer de voir à quoi correspondent ces drogues qui sont actives sur notre système nerveux, comme la morphine ou le tétrahydrocannabinol, bien connu. Eh bien, on se rend compte que la morphine est un analogue de structure de l'un de ces neuromédiateurs ou neurotransmetteurs, la leucéphaline. Et on se rend compte que le tétrahydrocannabinol est un analogue de structure de l'un de ces neurotransmetteurs, l'anandamide, que nous trouvons dans notre système nerveux central. En fait, qu'est-ce que c'est que ces drogues? Ce sont simplement des analogues de structure de ces signaux chimiques qui interviennent dans la communication entre cellules nerveuses. Et l'homme, en fait, au cours de son histoire, est allé chercher dans le monde naturel des plantes, des substances diverses qui agissent sur son système nerveux central au niveau de ses grandes fonctions, comme la douleur ou le plaisir hédonique. Donc, dans ces grandes fonctions qui sont modifiées par ces drogues, interviennent des neuromédiateurs et on peut dire que ces drogues sont en quelque sorte des représentations sociales des substances chimiques que nous avons dans notre cerveau. Voilà par exemple un tissu huichol qui a été tissé par les Indiens des hauts plateaux du Mexique lors d'expériences hallucinatoires qu'ils ont eues avec la mescaline lors de pèlerinages qu'ils ont effectués sur les hauts plateaux du Mexique. Et en rentrant chez eux, ils essayent de reproduire les hallucinations qu'ils ont pu avoir lors de ces pèlerinages avec la mescaline et vous voyez le type de représentation, en quelque sorte d'hallucinations qui ont pu se produire dans leur espace conscient lors de cette expérience dans les hauts plateaux du Viricuta. La chimie de ces communications entre cellules nerveuses a été étudiée très en détail au cours des dernières années, d'abord au niveau de la libération de neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Voilà une image de ces divers types de molécules qui contribuent non seulement à la synthèse, à l'accumulation des neurotransmetteurs, mais aussi à sa libération lors de l'arrivée de l'influx nerveux dans la terminaison nerveuse. Vous voyez que cette chimie a fait des progrès considérables au cours de ces dernières années. Et ensuite, s'est posée aussi la question de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de la partie postérieure de la terminaison nerveuse lorsque le neuromédiateur entre en contact avec cette membrane pour créer un signal électrique qui peut être un signal d'excitation, je l'ai mentionné pour l'acétylcholine ou pour la dopamine, ou un signal d'inhibition, comme c'est le cas avec l'acide gamma-aminobutyrique ou la glycine. Que se passe-t-il au niveau de cette membrane postsynaptique? J'ai dit qu'il y avait un mécanisme qui intervenait ici de transduction chimio-électrique, et dans les quelques minutes qui vont suivre, je vais essayer de vous montrer comment la cible du neurotransmetteur, qui est aussi la cible de certaines substances actives sous forme de drogue, a pu être identifiée dans cette membrane postsynaptique. Pour ce faire, il fallait trouver un tissu qui soit très riche en terminaisons nerveuses et qui soit homogène. Quel tissu utiliser pour isoler un de ces récepteurs de neuromédiateurs, qui est aussi en quelque sorte un récepteur de drogue, et celui dont je vais vous parler, récepteur d'une drogue qui est fort utilisée, qui est la nicotine. Il fallait utiliser un système qui soit beaucoup plus homogène que notre cerveau. Notre cerveau, comme je l'ai dit, est extrêmement hétérogène. Il comporte plusieurs types de neurotransmetteurs, il comporte des quantités de types de neurones, et il fallait avoir un tissu qui soit extrêmement homogène. Ce tissu très homogène, il a été offert par cet organe d'un poisson électrique fort connu depuis l'Antiquité, la torpille. Et dans ce tissu se trouve une collection de synapses qui est de l'ordre de grandeur du nombre de neurones que nous avons dans notre cerveau. Mais toutes ces synapses sont identiques entre elles. D'où un tissu extrêmement homogène, est très riche en terminaison nerveuse et en récepteur du neuromédiateur. Donc nous sommes partis de cet organe électrique et il fallait en plus essayer d'étiqueter ce récepteur qui reconnaît le neuromédiateur. Alors on pouvait utiliser évidemment l'acétylcholine pour marquer ce récepteur. Mais substance que nous avons utilisée pour marquer ce récepteur vous surprendra peut-être. J'espère que vous n'avez jamais été mordu par un serpent du type cobra ou bungar. On en survit, mais enfin, parfois avec difficulté. La raison de la toxicité de ce sérum, de ce venin, excusez-moi, est qu'il possède des toxines qui agissent de manière extrêmement sélective sur certaines cibles particulières et en particulier sur les synapses. Et cette toxine de venin de serpent agit au niveau de la jonction neuromusculaire, un peu comme le curare, et bloque cette jonction neuromusculaire. Il le bloque d'une manière extrêmement spécifique, de telle sorte qu'on peut isoler cette toxine, la rendre radioactive, et aller à la pêche de ce récepteur qui intervient dans la transduction du signal chimio-électrique. Et cette toxine de venin de serpent nous a été un outil extrêmement précieux pour caractériser et isoler cette molécule qui se trouve présente dans la membrane postsynaptique, qui reconnaît le neuromédiateur et convertit ce signal chimique en signal électrique. Voici la première image en microscopie électronique de ce récepteur. En voici une autre. Et vous voyez qu'ici, nous avons abandonné le niveau de la synapse que je vous avais présenté tout à l'heure, de l'ordre du micron, pour nous trouver ici à une échelle qui est 1000 fois plus petite. On a ici 10 milliardièmes de mètre. Donc cette membrane postsynaptique qui intervient dans la transduction du signal chimio-électrique, la voici, c'est une molécule de masse moléculaire 300 000 qui contient le site de liaison du neuromédiateur et qui contient également un canal ionique. Et c'est du couplage entre la liaison du neuromédiateur et le canal ionique que se produit cette transduction du signal, cette ouverture du canal, quand l'acétylcholine se fixe sur son récepteur. Alors, nous sommes passés du cerveau au neurone, du neurone à la synapse, de la synapse à ses composants moléculaires qui se trouvent présents dans cette membrane postsynaptique et tout particulièrement de ses récepteurs. Je pense qu'on peut aller encore plus loin dans cette analyse et accroître encore la résolution au niveau atomique. Et très récemment, le site actif d'un de ces récepteurs de neuromédiateurs a pu être étudié par cristallographie et sa structure atomique résolue. C'est le cas d'un récepteur du glutamate, qui, comme je l'ai dit, est un neuromédiateur. Ce n'est pas le récepteur de l'acétylcholine, ici, c'est le récepteur du glutamate. Et vous voyez l'organisation de ce site au niveau submoléculaire, atomique, avec ici l'emplacement de la molécule de neuromédiateur. Et la découverte importante faite par ces auteurs a été de se rendre compte qu'il y avait une incroyable analogie de structure avec une protéine bactérienne qui fixe aussi le glutamate. Nous avons dans notre cerveau des molécules qui ont plus d'un milliard d'années puisqu'elles dérivent de protéines bactériennes qui ont conservé leur structure en changeant légèrement leur fonction. Ce qui illustre cette proposition qu'avait faite François Jacob avant-hier, qu'il y a une extraordinaire conservation et une extraordinaire unité dans l'organisation moléculaire des êtres vivants. Ici, dans notre cerveau, nous avons hérité d'une molécule qui est apparue sur Terre il y a plus d'un milliard d'années. On commence également à comprendre l'organisation du canal ionique qui est associé à ce site récepteur et comprendre la distinction qui fait qu'un canal peut reconnaître un cation, donc être excitateur, ou reconnaître un anion, donc être inhibiteur. Et si je parle de ces deux types de canaux, c'est qu'ils interviennent, bien entendu, dans nos fonctions cérébrales. Ici, ça peut être le cas du récepteur de l'acétylcholine. Ici, ça peut être le cas du récepteur de l'acide gamma-aminobutyrique. Alors, je pense quand même que quelques-uns d'entre vous, j'espère pas tous, utilisaient parfois des somnifères ou des tranquillisants, comme le Valium, le Librium. Vous savez que ce sont les produits les plus vendus actuellement parmi les agents actifs sur le système nerveux. Eh bien, ces agents pharmacologiques interviennent, non pas au niveau de ce canal, mais sur l'ouverture de ce canal dans le cadre du récepteur de l'acide gamma-aminobutyrique. Donc, c'est par cet effet inhibiteur que ces tranquillisants agissent sur notre système nerveux central. Donc, vous voyez que cette chimie au niveau atomique a des incidences considérables sur nos fonctions cérébrales. Et dernière question concernant ces effets moléculaires, comment comprendre l'ouverture de ce canal ionique qui peut être pour donc des cations comme le sodium ou le potassium ou des anions comme le chlore, comment concevoir cette ouverture du canal ionique par le neurotransmetteur lorsqu'il se fixe sur ce site? Je vous ai montré une image de ce site actif, je vous ai montré une image de ce canal ionique. Comment le neurotransmetteur, lorsqu'il se fixe sur son site, va ouvrir ce canal ionique? Bien, l'hypothèse qui a été formulée il y a bien des années est que cette ouverture du canal ionique va faire intervenir une sorte de déclic moléculaire, un commutateur qui va ouvrir le canal et le refermer quand le neurotransmetteur se fixe sur son site. Ces mécanismes, j'ai eu le privilège de les étudier lorsque j'étais étudiant chez Jacques Monod, et on avait pu trouver chez certaines bactéries des enzymes régulateurs qui agissent en quelque sorte comme des commutateurs où le site actif se trouve mis en route lorsque le neurotransmetteur se fixe sur un état conformationnel de cet enzyme régulateur, alors que les inhibiteurs vont aller stabiliser un autre état où le site catalytique n'est plus fonctionnel. Eh bien, l'idée que j'ai proposée est que ce genre de mécanisme de commutation moléculaire peut aussi intervenir au niveau des récepteurs de neurotransmetteurs dans notre système nerveux central. C'est que nous avons en fait non seulement des molécules qui ressemblent à ces molécules bactériennes, que je vous montrais tout à l'heure, pas toutes, mais enfin certaines, mais également des mécanismes moléculaires qui se trouvent être très semblables à ceux qui se trouvent chez les cellules bactériennes que François Jacob vous a présentées. Et voilà le schéma, donc, que nous avons proposé, qui est très largement validé, d'ouverture du canal ionique, de transduction du signal par le neurotransmetteur, donc un changement discret de conformation qui va ouvrir le canal quand le neurotransmetteur est présent, et quand le neurotransmetteur s'en va, le canal va se refermer et le système va retomber. C'est une sorte de serrure qui s'ouvre et se ferme lorsque la clé est présente. Il existe aussi, ça c'est un point important, d'autres états. Je parle de ces états parce qu'ils sont importants sur le plan de certains mécanismes de plus longue durée, donc de mémoire, d'états conformationnels qui, eux, n'apparaissent que secondes ou minutes après le début de l'application du neurotransmetteur. Donc vous voyez que non seulement nous avons dans notre système nerveux des molécules qui servent de commutateurs lorsque le neurotransmetteur est présent, mais aussi sont susceptibles de maintenir en mémoire, voilà le terme, cette information en présence prolongée de ce neurotransmetteur. Donc nous avons non seulement des mécanismes de commutation, mais des mécanismes de mémorisation, de conservation de traces de l'activité de notre système nerveux central au niveau de ces molécules présentes dans les synapses. Alors, ce que je vous ai dit, je vais essayer de vous l'illustrer. Et Nigel Unwin, qui est un microscopiste de grand talent, a réussi à étudier par microscopie donc l'ouverture et la fermeture du canal ionique du récepteur de l'acétylcholine. Je vous ai dit qu'il y avait une commutation, une sorte de serrure qui s'ouvre et qui se ferme. Et voilà l'ouverture et la fermeture de ce canal ionique vu de dessus. Nous sommes là à l'intérieur de la membrane. Vous avez vu le site peut-être qui pouvait se présenter sur le dessus de la membrane. Là, nous sommes à l'intérieur de la membrane et nous regardons le récepteur comme si nous étions au niveau de la terminaison nerveuse. Et au niveau de la membrane, on voit en quelque sorte cette ouverture et cette fermeture qui se produit au sein même de la molécule. Donc, en conclusion de toutes ces recherches qui ont été réalisées sur le récepteur de l'acétylcholine, sur le récepteur du glutamate, sur d'autres récepteurs qui ne suivent pas exactement le même patron moléculaire, on arrive à la conclusion que nos activités cérébrales sont la conséquence non seulement d'activités électriques qui sont produites par nos cellules nerveuses, se propagent dans nos nerfs, mais également sont transmises par des systèmes moléculaires de récepteurs de neurotransmetteurs qui sont capables de transduire un signal chimique en un signal électrique. Vous avez vu ce canal ionique s'ouvrir et se fermer, mais là, il peut y avoir d'autres activités chimiques qui sont associées à ces récepteurs et qui interviennent au niveau du métabolisme cellulaire. Ce n'est plus exactement le même mécanisme. Je vous présente juste ce cliché pour vous dire que ces récepteurs sont présents en très grand nombre, et en particulier pour ceux qui aiment les parfums ou qui sont des dégustateurs de bons vins, et des récepteurs des molécules qui possèdent une odeur. Et en fait, ces récepteurs sont extrêmement nombreux dans notre système olfactif, et il existe plus d'un millier de gènes codants pour des récepteurs différents qui interviennent dans la réception de ces odeurs dans notre système sensoriel, olfactif, et aussi gustatif, bien entendu. Donc, une extraordinaire palette de molécules susceptibles non seulement d'intervenir dans la réception de signaux du monde extérieur, de signaux lumineux, de signaux mécaniques, comme des signaux auditifs, mais aussi de contribuer à nos activités internes de notre système nerveux central, et non seulement la genèse de ces activités centrales, mais aussi, bien entendu, leur transmission d'une cellule à l'autre. Alors, nous sommes descendus de la cellule nerveuse à la molécule et de la molécule à l'atome, en quelque sorte. Et jusque-là, nous n'avons fait qu'utiliser des forces physico-chimiques. Nous n'avons pas eu à intervenir du tout, à faire appel à d'autres mécanismes que des mécanismes qui peuvent s'expliquer en termes matériels et physico-chimiques. J'ai même illustré la structure atomique de ce site du glutamate dans le cadre de ce récepteur très particulier. Alors maintenant, évidemment, on va essayer, à partir de cette connaissance au niveau moléculaire et de cette organisation des cellules nerveuses les unes avec les autres, de remonter jusqu'au système nerveux central et essayer de voir si on peut localiser ces récepteurs au niveau de l'encéphale lui-même. Et dans cette image est utilisée une substance radioactive qui est un marqueur du site de l'acétylcholine. Et ce site de l'acétylcholine est aussi celui de la nicotine. Donc ici, nous avons en quelque sorte un cerveau de fumeur, sauf qu'il s'agit d'un singe. Mais le cerveau du fumeur, comme je l'ai dit, possède quelques différences. Mais ainsi que, pour ce qu'il en est de la distribution des sites de la nicotine, elle est extrêmement voisine. Et vous voyez que cette distribution n'est pas homogène. Donc on va essayer d'aborder, en quelque sorte, non plus simplement la chimie de la cellule nerveuse, mais ces récepteurs distribués dans l'ensemble de notre cerveau, et se poser la question de savoir comment on peut essayer de relier ces propriétés physico-chimiques avec nos grandes fonctions cérébrales. Alors j'ai choisi ici un exemple qui est un test utilisé par les neurologues pour essayer de voir si un patient a ou non une lésion du cortex frontal. Alors, si un patient a une lésion du cortex visuel, bien entendu, il ne voit plus. S'il a une lésion du cortex auditif, il n'entend plus. Mais ce cortex frontal qui apparaît au cours de l'évolution à partir du singe, il est déjà présent avant, mais sa surface est modeste. Il y a une expansion formidable de ce cortex frontal. Je l'ai montré sur le deuxième cliché, qui se produit lorsqu'on passe du singe à l'homme. Et évidemment, on peut se demander si cette expansion du cortex frontal n'est pas liée au développement de nos fonctions cognitives d'être humain. Et trouver un test qui mette à l'épreuve le bon fonctionnement de ce cortex frontal est difficile. Et il a été mis au point par des chercheurs américains du Wisconsin, et il s'appelle test de tri de cartes de Wisconsin. Alors voilà de quoi il s'agit. On dispose d'un certain nombre de cartes avec des figures qui sont de couleurs différentes, de formes différentes et de nombres différents. Alors on dispose devant le sujet un ensemble de cartes de référence et une pile de cartes de réponse. Et on va demander au sujet de classer les cartes de réponse suivant une règle. Alors, évidemment, il y a le médecin qui est là et le sujet qui se trouve ici. Et le sujet va prendre une carte de réponse et essayer, par exemple, de la classer en fonction de la couleur. Si ses croix sont de couleur rouge, il va donc classer cette carte avec la carte de référence qui a une couleur rouge. Et il fait cette opération et le médecin dit oui, c'est bon. Alors, il prend une deuxième carte et puis il trouve qu'elle est de couleur rouge dans la pile. Il va la mettre avec les cartes de couleur rouge, etc. Jusqu'au moment où le médecin lui dit non, ça ne va pas. C'est-à-dire que le médecin, en fait, change de règle sans prévenir le patient. Et le patient a à découvrir que le médecin a changé de règle et qu'il y a une règle nouvelle qui va être, par exemple, le classement en fonction du nombre ou de la forme, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir une sorte de petit jeu entre le patient et le médecin pour, en quelque sorte, découvrir une règle de classement cachée. Et ce damné médecin va changer de règle sans prévenir le patient plusieurs fois de suite, et le patient, quelques jeu de cartes va trouver la règle, va découvrir la règle que le médecin a dans sa tête. C'est un petit jeu très simple, beaucoup plus simple que les jeux télévisés qu'on voit régulièrement. Eh bien, malheureusement, un patient ayant une lésion du cortex frontal ne va pas découvrir la nouvelle règle. Il va se tromper. Il va souvent persévérer dans la règle précédente, il ne va pas se rendre compte qu'il y a eu un changement de règle. Donc il y a une opération cognitive de compréhension qui va être perturbée chez ce patient qui a une lésion frontale. Nous avons essayé de faire un modèle neuronal avec Stanislas Dehaene de ce processus cérébral qui intervient dans ce test du TriCART. Alors évidemment, vous allez me dire tout de suite, ce modèle, il est beaucoup trop simple par rapport à cette idée que j'ai essayé de vous donner du cerveau. Bien entendu, il est extrêmement simple. Mais un modèle, c'est une sorte d'outil cérébral, mental, que nous produisons en tant que scientifiques, pour essayer de simplifier un petit peu ce qui se passe et d'essayer de trouver quelles sont les grandes règles de fonctionnement de notre cerveau, par exemple. Et ce modèle, vous allez le voir, est relativement simple. Pour que le sujet puisse reconnaître une règle, il faut que cette règle soit présente dans ses neurones, par des états d'activité d'ensemble de cellules nerveuses. Le modèle donc va simplement décrire que ici il va y avoir une règle qui code pour la forme, ici une règle qui code pour la couleur, et ici une règle qui code par exemple pour le nombre de ces figures qu'il y avait sur la carte. Et selon ce modèle, ces états d'activité de neurones vont être tels qu'à un moment donné, il n'y a qu'une seule règle qui est active. Un seul groupe de neurones qui code pour la règle qui est actif. Les autres sont inhibés. Et lorsque cet ensemble de cellules nerveuses qui codent par exemple pour la règle couleur va être actif, les autres étant inhibés, eh bien l'organisme va donner une réponse telle que le choix de la carte va correspondre à la couleur. Bon, donc l'organisme va avoir un bras qui va sortir la carte et la placer sous celle qui sert de référence et qui a par exemple la couleur rouge. Si c'est la bonne carte, le médecin va donner une réponse positive. Il va y avoir donc un système de cellules nerveuses, de neurones de récompense qui vont intervenir pour transmettre au cerveau du sujet une réponse positive, un mécanisme de récompense. Quand on a réussi un jeu, on est content. Quand on est content, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau. Donc il existe des neurones dits de récompense qui vont libérer un neurotransmetteur et qui vont stabiliser ce groupe de cellules nerveuses qui a codé pour la règle rouge. Comment il va stabiliser? Eh bien, en changeant, par exemple, ses efficacités synaptiques au niveau moléculaire, ces récepteurs que je vous ai montrés tout à l'heure, qui peuvent être stabilisés dans des états, par exemple, qui permettent l'auto-excitation de ce groupe de neurones dans cet ensemble qui code pour la règle couleur. Donc vous voyez qu'il va y avoir en quelque sorte un dispositif où le sujet ou l'organisme ici va tester une règle sur le monde extérieur et la réponse, si elle est positive, va consolider cette hypothèse que le sujet teste sur le monde extérieur. Donc je teste une hypothèse, la réponse est positive, cette hypothèse est consolidée dans mon cerveau. La réponse est négative, eh bien, elle est déstabilisée et je cherche une autre hypothèse. Voilà en quelque sorte ce schéma extrêmement simple pour rendre compte de cette réponse lorsqu'on passe le test de Visconti. Donc un petit modèle très mécanique, mais très simple, qui rend compte en quelque sorte, en tout cas il passe le test avec succès, et qui rencontre un certain nombre de processus neuronaux qui peuvent intervenir lorsque nous passons ce test. D'abord, nous formulons des hypothèses Ensuite, ces hypothèses sont validées ou pas. Donc, il existe des mécanismes de validation qui s'appellent des mécanismes de récompense. Alors, cela nous a aidés, évidemment, dans notre recherche ultérieure pour essayer de mettre en relation le niveau moléculaire et le niveau cognitif. Mais encore une fois, avec un modèle évidemment bien rudimentaire pour essayer de comprendre comment fonctionne notre cortex frontal. Toujours est-il que les patients qui ont une altération du cortex frontal ne peuvent pas passer ce test, donc ce test correspond à un état d'évolution de notre cerveau qui est en relation avec des fonctions cognitives supérieures. Qu'est-ce que c'est que ces mécanismes de récompense que nous avons dans notre cerveau? Eh bien, ils ont été explorés par Rawls il y a bien des années, tout à fait par hasard. Un beau jour, ce chercheur a planté des électrodes de stimulation dans le cerveau d'un rat. Et par hasard, il a stimulé ces électrodes et en faisant cette stimulation, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques réactions qui se produisaient chez l'animal. Et il a laissé l'animal, en fait, s'auto-stimuler. C'est-à-dire appuyer sur une pédale qui lui envoie une décharge dans le cerveau. Et vous voyez que suivant la position où cette électrode est placée, eh bien, on peut créer une auto-stimulation électrique chez le rat. Ça correspond à un certain nombre de neurones qui utilisent comme neurotransmetteurs la dopamine. Je vous ai parlé de ce neurotransmetteur tout à fait au début de mon exposé. Vous voyez ici le résultat de cette expérience d'auto-stimulation. Vous voyez que non seulement le rat prend plaisir à s'auto-stimuler, mais il ne s'arrête pas, même si il manque de nourriture, même si on lui présente un partenaire sexuel extrêmement attractif, il continue à s'auto-stimuler, il ne s'arrête que pour dormir et recommence pendant le restant de sa journée. Donc il va s'épuiser à s'auto-stimuler. Il y a donc dans notre cerveau des systèmes de récompense, vous les ai montrés tout à l'heure, nous les avons postulés pour rendre compte d'un processus cognitif d'apprentissage de règles. Mais là, c'est une sorte de mise en évidence expérimentale par un artifice qui est celui de l'autostimulation. Mais après tout, quand on regarde comment se comporte un fumeur, il se réveille, il allume une cigarette, il commence. Au bout de 5 minutes, il reprend une deuxième cigarette, il recommence, etc. Nous avons donc une autostimulation qui se produit. Et on peut obtenir un animal qui s'auto-stimule à la cocaïne, ça c'est très facile. À la nicotine, c'est un peu plus difficile parce que les rats et les souris n'aiment pas tellement la nicotine. Mais vous voyez que, au fond, si on donne à une souris la capacité de s'injecter de la nicotine au lieu de s'auto-stimuler électriquement, on va avoir une auto-administration de nicotine qui se produit et qui est analogue à l'autostimulation électrique. Alors nous sommes intéressés évidemment dans le cadre de cet apprentissage cognitif à l'identification de la cible de la nicotine dans une expérience d'autostimulation. Et ce que nous avons pu obtenir au laboratoire, c'est le travail de Marina Picciotto et Lisa Marubio essentiellement. C'est une souris mutante. François Jacob vous a parlé des mutations, d'altération du patrimoine génétique. Et ici, on peut les obtenir artificiellement, par ingénierie génétique, et obtenir une souris qui a perdu un gène qui code pour un récepteur de la nicotine et un autre gène qui participe à ce même récepteur. Alors voici une tranche de cerveau de souris normale. Vous voyez que il y a fixation de la nicotine sur ce cerveau à divers endroits, le thalamus, cortex cérébral. Chez les mutants, plus de liaison de la nicotine. Donc, on a obtenu en quelque sorte une souris qui a perdu le récepteur de la nicotine, un récepteur de la nicotine, dans son système nerveux central. Question posée, est-ce qu'elle est modifiée ou pas dans ses capacités d'apprentissage, et en particulier dans cette capacité aussi à s'auto-administrer de la nicotine, ces systèmes de récompense que j'ai mentionnés tout à l'heure. Alors, on a utilisé un test, j'ai bientôt fini, qui est un test d'apprentissage, où on met la souris dans un comportement lumineux, dans un compartiment lumineux, et on la laisse passer dans un compartiment obscur. Spontanément, comme vous le savez, les souris sortent la nuit, elles ne sortent pas le jour. Donc, spontanément, elle va rentrer dans le compartiment sombre. Et là, elle reçoit un choc électrique. Question posée, est-ce que la souris va se rappeler de son choc électrique le lendemain? Si oui, elle va rester plus longtemps dans le compartiment éclairé et ne rentrera que plus tardivement dans le compartiment obscur. Si on injecte de la nicotine avant de faire l'expérience le lendemain, c'est-à-dire juste après que la souris a reçu le choc électrique, eh bien, on se rend compte que la nicotine favorise la mise en mémoire du choc aversif, c'est-à-dire de ce choc déplaisant électrique que la souris a reçu lorsqu'elle est entrée dans le compartiment sombre. Et vous voyez ici qu'il y a effectivement un remarquable accroissement du délai que met la souris pour entrer dans le compartiment obscur après injection de nicotine. Donc la nicotine favorise la mémorisation du choc aversif. Que se passe-t-il chez le mutant ? Eh bien, chez le mutant, il n'y a plus d'effet de la nicotine et par-dessus le marché, la souris, en l'absence de nicotine, reste un petit peu plus longtemps dans le compartiment éclairé. Comme si elle avait une meilleure capacité d'apprentissage. Je n'ai pas dit qu'elle apprenait mieux. Mais la mesure de cette réaction souligne un temps de latence un peu plus prolongé chez cette souris mutante. Qu'en est-il de son système d'auto-administration de nicotine? Eh bien, vous regardez simplement ce cliché. La souris normale, d'abord, s'auto-injecte de la cocaïne d'une manière extrêmement facile et il faut l'entraîner sur la cocaïne pour ensuite voir si elle s'auto-administre la nicotine. Et on peut observer qu'effectivement, une fois qu'elle a été entraînée sur la cocaïne, elle continue à s'auto-administrer de la nicotine. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est que chez la souris mutante, eh bien, il y a perte de l'auto-administration de nicotine, c'est-à-dire qu'on a obtenu une souris qui n'est plus sensible à l'effet, en quelque sorte, hédonique de la nicotine. Elle a perdu cette capacité à s'auto-administrer la nicotine. Donc, il existe une relation très nette entre cette capacité de la souris à effectuer ses tâches d'apprentissage, à s'effectuer ses tâches d'auto-administration de la nicotine, qui contribue en quelque sorte à un début de mise en correspondance entre le niveau moléculaire et le niveau cognitif. Évidemment, nous sommes très loin de la compréhension de tous les liens qui peuvent exister entre ce niveau moléculaire et ce niveau cognitif. Je vous ai montré un schéma extrêmement fruste d'organismes artificiels susceptibles de passer ces tâches. J'ai essayé de décomposer certains de ces éléments, entre autres les systèmes de récompense, et de montrer comment, par l'analyse de mutations chez la souris, on pouvait aborder point par point les divers schémas engagé par ce modèle, mais c'est encore évidemment extrêmement fruste. J'ai dit ignoramus, nous ignorons encore beaucoup de choses dans ce lien entre le niveau moléculaire et le niveau cognitif, mais nous disposons des techniques qui permettent d'aborder cette mise en correspondance. Alors évidemment, qu'en est-il de fonctions encore plus élaborées comme la conscience? Je dirais simplement qu'on est capable d'intervenir à ce niveau pour proposer des modèles, pour essayer de faire des schémas extrêmement rudimentaires comme ceux que j'ai montrés à propos de ces tâches d'apprentissage cognitif, mais nous sommes encore très loin d'avoir une parfaite compréhension des processus conscients. Ils sont simplement abordables sur le plan scientifique et je pense que c'est un point très important. Je voudrais conclure en vous présentant très rapidement, et je termine maintenant, trois images. Une image pour vous montrer que on peut aborder donc cette chimie des fonctions supérieures du cerveau à l'aide de méthodes d'imagerie. Ici, c'est la caméra à positons, le travail de Posner. Et vous voyez une activation différentielle de diverses aires du cerveau lorsque l'on entend, lorsqu'on voit, lorsqu'on parle, lorsqu'on réfléchit. Et je voulais aussi vous montrer ce très beau tableau de Reynolds, qui est un autoportrait, pour conclure en vous demandant de ne pas trop vous laisser éblouir ou terroriser par ce progrès des connaissances sur le cerveau et cette conclusion, évidemment, que nous avons une machine chimique dans notre tête, qui est une sorte d'humiliation de plus que la connaissance scientifique nous impose. Donc, ne nous laissons pas éblouir ni terroriser, mais pensons que ce cerveau, et j'ai montré l'exemple des drogues, est extrêmement vulnérable et que c'est cette connaissance de la chimie du cerveau qui nous permet d'apprécier cette vulnérabilité. Appréciez aussi la vulnérabilité à la maladie. Maurice Tibiana a écrit récemment, ce grand médecin, que les problèmes psychologiques et les maladies psychiatriques occuperont au XXIe siècle le devant de la scène médicale. Et dit-il, heureusement, les progrès des neurosciences donneront aux médecins des armes pour faire face à ces problèmes. Donc, cette connaissance de la chimie du cerveau qui se trouve déréglée, par exemple, cette chimie, au cours du vieillissement, il faut espérer qu'on arrivera à trouver des médicaments qui la ralentissent ou bien qui en altèrent du moins les effets dramatiques. Vulnérabilité, enfin, des perturbations de la vie sociale. Et je voudrais simplement terminer par une diapositive qui rappelle que nous sommes ici au Conservatoire des Arts et Métiers, puisque c'est une diapositive du temps de la Révolution française, qui est assez intéressante pour nous parce que pourquoi être effrayé de ces connaissances sur le cerveau? C'est une meilleure connaissance de notre propre nature qui nous permet donc de nous mieux comprendre. Et voici représentée Mère Nature avec tous ses saints qui intervient ici pour nous aider à réconcilier la liberté avec l'égalité. Je vous remercie.